Donc, nous poursuivons notre deuxième jour, donc avec une intervention de François qui va nous parler du sport de l'éducation chrétienne, la survivance d'un mythe et les visions dangereuses. Donc, bah, je lui laisse la parole.
Merci Pascal. Avant toute chose, je voudrais très simplement te remercier. Et tous tes amis et tous tes contacts pour à la fois la tenue de ce deuxième colloque, congrès, carrefour, manifestation, regroupement, qui marque déjà une première continuité, et puis aussi pour avoir pensé que je pouvais modestement exprimer un point de vue en public. Je placerai ce point de vue à partir d'un pôle d'observation à trois dimensions métissées. Universitaire, ça fait une trentaine d'années à peu près, depuis 87 et la rencontre avec un de mes premiers maîtres, Madame Françoise Mayer à Lille, puis Guy Avanzini en région parisienne, que j'essaye d'analyser, escalité, ces questions des pratiques corporelles et de l'éducation chrétienne. Deuxième pôle professionnel, depuis 82, j'ai exercé sans discontinuité dans différentes structures dans l'enseignement catholique, avec toujours les pratiques corporelles comme cœur de métier. Et puis le troisième pôle, c'est personnel. À tort ou à raison, je n'ai jamais eu la moindre attache politique, syndicale, associative et institutionnelle avec telle ou telle tribu dans le genre. Et j'essaye ainsi de conserver une certaine liberté de parole qui trouve un sas d'humeur dans le blog que j'ai ouvert il y a un an à pareille époque qui s'appelle All Black du sport. Mon propos, qui s'intitule donc « Le sport et l'éducation chrétienne, la survivance d'un mythe et les liaisons dangereuses », il sera structuré en quatre phases. Une première phase où j'évoquerai un peu la contextualisation du débat. Une deuxième phase relative aux positions génériques de l'Église sur le sport. Une troisième phase où nous essaierons d'appréhender les tensions entre le sport et l'éducation chrétienne, trop souvent masqué par un marketing ambiant, et une quatrième phase où nous tenterons d'exposer des intuitions susceptibles d'avoir un débat et de fixer un éventuel cap, comme disait Gilles hier, de la recherche fatigante. Commençons donc par cette première phase. Dans la contestation virulente qui frappe de plein fouet le christianisme et le catholicisme en particulier, je renvoie aux excellents ouvrages de René Raymond, le rapport au corps est l'un des points majeurs du contentieux. Il ne s'agira pas, dans le cadre de cet exposé, de reprendre le procès, ce qui inviterait bien sûr aux nuances indispensables, mais il est néanmoins évident que les tendances jansénistes et rigoristes dans le catholicisme ont contribué à majorer les interprétations sévères concernant le corps. Et le rigorisme a survécu bien au-delà des condamnations qui ont frappé le jansénisme. Il appartient au temps long de l'histoire. Cependant, contrairement à une idée reçue trop souvent affirmée de la part des athées hostiles à la religion chrétienne, cette dernière n'est pas tout entière vouée au combat contre le corps, la chair et la sensualité. Même le catéchisme officiel de l'Église, qui n'est pourtant pas un texte suspect d'originalité, y insiste. La chair est le pivot du salut. Nous croyons en Dieu qui est le créateur de la chair. Nous croyons au Verbe qui fait chair pour acheter la chair. Parmi ce vaste ensemble de pratiques corporelles, pour reprendre ici la notion mobilisée par les sociologues et les anthropologues, pour désigner le plus souvent trois séries d'activités à la fois distinctes et interférentes, le jeu, la gymnastique ou l'éducation physique et le sport, l'attention sera ici bien plus portée aux questions liées au corps sportif, à l'homo sportivus. Évidemment, au regard de la dimension universelle du sport et de son extraordinaire développement à l'échelle de la planète, mais aussi d'un regain d'intérêt pastoral sur ces questions dans les sphères de l'Église. Je partage la définition du sport catholique que propose Transwez, à savoir un moment dans l'histoire du sport, entre les débuts des disciplines de masse qu'il contribue à alimenter et le triomphe du professionnalisme et du sport spectacle. Il n'en convient pas moins qu'un besoin de réflexion sur l'actualité et l'éventuelle pertinence de la question demeure et que nous ne pouvons nous résigner à l'abandonner définitivement. En effet, sur le plan institutionnel, deux fédérations affinitaires, emblématiques du sport catholique, la FSCF et l'UCEL, viennent de célébrer des anniversaires en ce début de XXIe siècle, qui traduisent une pérennité incontestable et une survie face aux mutations culturelles qu'elles ont rencontrées. 110 ans en 2008 pour la FSCF, 100 ans en 2011 pour l'UCEL. Certes, au-delà des manifestations festives symboliques qui expriment une présence, que reste-t-il aujourd'hui au sein de ces fédérations d'une certaine effervescence intellectuelle soutenue jusqu'au tournant des années 50, pour l'UCEL notamment, par un dénommé Monseigneur Barbier de la Serre que j'ai bien connu, pour essayer de définir et de mettre en scène un sport catholique ou tout au moins une éducation physique et sportive catholique. À dire vrai, pas grand-chose. À partir du moment où, d'une part, le sport a développé sa logique propre, et d'autre part, le christianisme, dans sa version catholique, a progressivement perdu de son prestige intellectuel, on en parlait un peu hier après-midi, et bien plus, a engendré à son encontre une véritable culture du mépris. Les institutions demeurent, elles affichent ostensiblement des missions, des orientations, elles cherchent leur raison d'être dans un contexte assez défavorable, mais au-delà de cette légitime allégresse collective autour d'un anniversaire qu'il ne faut surtout pas renier, nous ne percevons plus guère d'expression de débat pour essayer de sortir des ornières d'un sport qui a perdu toute crédibilité éducative, ou plus encore trouver d'autres formes de pratiques corporelles susceptibles de correspondre un peu plus à un idéal éducatif pourtant très souvent réaffirmé. Les débats initiés par Barbier de la Serre, ses collaborateurs et tous les pionniers semblent être maintenant, à tort ou à raison, des préoccupations d'historiens. Et finalement, comme le soulignait Laurence Munoz, présente parmi nous indirectement, elle disait en 2003 déjà à propos de la FSCF, et je pourrais partager ce propos pour l'UCEL, ces institutions n'ont également peut-être plus d'autre légitimité que leur existence propre. Car pour mieux situer les enjeux, il ne s'agissait pas seulement pour les pionniers d'établir une matière supplémentaire au programme scolaire ou d'organiser exclusivement des compétitions pour les scolaires, mais bien d'appréhender une anthropologie nouvelle prenant en compte l'être humain comme être corporel à promouvoir dans la plénitude de ses caractéristiques fondamentales. Malheureusement, un hiatus est né dès l'origine entre la nature de l'entreprise, où l'organisation de compétitions sportives scolaires prenait une place hégémonique, et les discours des dirigeants qui s'efforçaient pourtant de définir une éducation physique et sportive catholique. Ces deux enjeux potentiellement contradictoires permettait-il l'émergence d'un sport catholique ou d'une éducation originale du corps chrétien? Rien n'est moins sûr, tant la compétition sportive se suffit à elle-même. D'autres formes de pratiques corporelles auraient été sans doute possibles au regard des expériences réalisées par ailleurs, des formes qui auraient davantage été susceptibles de véhiculer l'identité d'une éducation chrétienne. Car s'il y avait, pour les pionniers, une originalité, celle-ci ne venait que des propositions d'éducation chrétienne motivées par la volonté d'enraciner une place à la formation chrétienne dans l'ensemble d'une législation scolaire française abandonnée à la laïcité, arrachée à l'Église avant-guerre, puis menacée par l'école unique dont les débats dominent les années qui suivent le premier conflit mondial. L'enjeu essentiel demeurait bien celui de la formation de la jeunesse et la forme, voire la nature de la société politique bien avant de définir un sport catholique. Le sport moyen aurait néanmoins pu être évité, il ne l'a pas été pour le meilleur ou pour le pire. Alors bien sûr, la notion même de sport catholique semble d'emblée assez obsolète et inappropriée aujourd'hui. Mais à y regarder plus précisément, la question mérite d'être encore appréhendée. En effet, dès le début de son histoire, le sport a été associé à des valeurs en vue de promouvoir sa pratique. Son existence même s'est ainsi établie sur des présupposés qu'il a fallu cultiver tout au long de son développement, jusqu'à en faire un véritable mythe. Un consensus en béton armé a lentement émergé au cours de ces dernières décennies. Pour distiller massivement via les appareils d'État et les réseaux de l'industrie culturelle, l'idée que le sport est au service de l'homme. Malgré les affaires invraisemblables que génère l'institution sportive, dopage, matchs truqués, économie de casino, fraude financière, comportement mafieux, trafic d'influence, et malgré les violences multiformes à tous les niveaux de la pratique, à tous les étages de l'institution, dans quasiment toutes les disciplines et dans tous les pays, le sport n'est pas soupçonné. Et il finit toujours par trôner innocent dans le ciel des idées. Les milieux intellectuels, politiques, culturels qui devraient en principe mettre directement en cause cet idéalisme falsificateur ne cessent au contraire de le renforcer en attribuant au sport ses plus belles lettres de noblesse. Le sport est devenu un lieu commun qui ne supporte même pas qu'on l'interroge et qui obtient l'accord de tous, intellectuels compris, avant même d'être questionné. Certes, le sport représente à la fois un mode de vie, un horizon d'intérêts divers, un mélange d'opportunités, un assortiment de relations qui crée un monde propre avec ses croyances, ses règles particulières, sa culture, son autorité. Qui plus est, avec son langage composé de gestes physiques universellement compris qui traversent les frontières, il constitue un dénominateur commun, susceptible d'unir la communauté humaine tout entière, et offre ainsi une opportunité et une nouvelle perspective pour l'Église. Cette galaxie particulièrement complexe que le sport crée, où se mêlent des aspects esthétiques, techniques, commerciaux, politiques, médicaux, juridiques, nécessite une compréhension plus profonde de la part de l'Église pour en maîtriser les éventuels recours au service, bien sûr, du projet évangélique fondamental. Comme l'analysait mon maître Guy Avanzini en 2011, il y a là un problème d'ordre proprement pastoral qui dépasse largement une discussion d'ordre terminologique. Il s'agit d'une préoccupation sérieuse qui, après avoir été négligée, semble redevenue aujourd'hui l'objet d'une sorte de redécouverte et d'un nouvel intérêt. Pascal, hier dans son intervention, nous rappelait les différents épisodes marquants qui, depuis juin 2004, et l'institution par Jean-Paul II d'une section Église et Sport dans le dicastère du Conseil pontifical pour les laïcs au Vatican, fait sentir tout au moins la sollicitude du Saint-Siège dans ce secteur si névralgique de la culture contemporaine et montre à l'évidence que la question demeure entière de savoir dans quelle mesure le sport a pu, peut et peut-être à nouveau un moyen d'évangélisation. Abordons maintenant la deuxième phase relative à une approche assez générique des positions de l'Église sur le sport. Convient d'abord de reconnaître que c'est le Concile Vatican II qui marque un tournant essentiel et offre ainsi de la part de l'Église une vision beaucoup plus large concernant le sport. En effet, dans l'élaboration de la Constitution Gaudium et Spes, le sujet du sport est venu dans la discussion. Vatican II place le sport parmi les activités qui sont au cœur même d'une culture. Cette exposition, tout en offrant une dimension inattendue au sport, permet dans le même temps une interprétation plus précise, dynamique et critique de celui-ci, en phase avec les changements rapides de l'époque. Le Concile ouvrait ainsi un nouvel horizon pour faciliter l'analyse et la nécessaire évangélisation de ce nouveau concept qu'est le sport. L'Église experte en humanité, selon la formule de Paul VI, s'est toujours montrée relativement bienveillante à l'encontre du sport dans toutes ses dimensions. Elle a formulé une réflexion originale, encouragé sa pratique appropriée, d'abord dans le domaine de l'éducation au sein de l'Église, puis ensuite dans une plus grande envergure au sein de la société civile. Néanmoins, une analyse approfondie des textes pontificaux du XXe et du début du XXIe ne révèle aucune intention immédiate et ou explicite pour développer en matière de sport une formulation structurée de la pensée officielle de l'Église, se référant à une quelconque école de pensée. En fait, chaque intervention pontificale a été effectuée dans un contexte ecclésial particulier et a été déterminée en grande partie soit par les caractéristiques spécifiques de l'auditoire, soit liée à une circonstance ou une activité particulière, à la célébration d'un événement au sein de l'Église et ou à l'intérieur de la société dans son ensemble. En conséquence, ces facteurs extérieurs ont le plus souvent déterminé la qualité de ces allocutions pontificales, dans la mesure où elles ont été de ce fait limitées par le temps pour prétendre pleinement développer un thème. Même s'il est vrai qu'au fil des ans, une sorte de doctrine officielle de l'Église en matière de sport a fait peu à peu son apparition pour lire et ou éclairer la diversité des phénomènes sportifs, à la lumière de la foi et bien sûr, dans le cadre des principes généraux de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel, mais sans pour autant aboutir à une synthèse mûre et organique dans un document de l'Église officielle. Néanmoins, il ne s'agit surtout pas de répondre à la simple question de ce que pense l'Église du sport, comme s'il s'agissait d'une simple agence de l'opinion publique, mais bien plus de savoir comment l'Église réalise sa mission dans le sport, comment une communauté de témoins du Christ ressuscité annonce le message du salut dans le monde du sport. Venons-en maintenant à la troisième phase relative aux tensions entre le sport et l'éducation chrétienne. Au-delà des événements, des acteurs et de manière diachronique, un des thèmes généraux qui permet de lire la vision du sport dans l'Église et qui conserve une actualité prégnante, susceptible de reprendre la question du sport catholique, c'est le fameux slogan « Le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent ». L'enseignement de l'Église perpétue contre vents et marées cette vision du potentiel éducatif de la pratique sportive. Non pas certes pour un développement des activités pour et en elles-mêmes, mais au regard d'un intérêt pour la construction de personnalités qui peuvent être confrontées au drame de la vie. Dans une perspective morale, la vie est considérée comme un défi, une compétition, un combat. C'est au service de l'idéal chrétien que le sport deviendrait ainsi une véritable méthode de formation sociale. Mais dans ces conditions, il est impérativement nécessaire de le sauver d'un double péril. D'une part, celui qu'engendrent les excès du professionnalisme, mais aussi celui de manière diamétralement opposée, qui génère l'amusement et le désintérêt dans la pure lignée des pratiques qui ont émergé au sein des premiers clubs mondains de la haute société parisienne de la deuxième moitié du 19e. Vaste chantier néanmoins que de vouloir retrouver les valeurs d'un sport éducatif. Force est en effet de constater qu'il ne suffit pas de pratiquer un sport pour se nourrir des valeurs auxquelles le sport est associé. Cette croyance en un pouvoir quasi magique du sport présenté comme un espace de recyclage duquel tous les participants sortiraient vertueux reste pleinement imaginaire. L'expression de ce mythe enchanteur se retrouve dans le slogan même de Luxel, fédération affinitaire scolaire emblématique et monopolistique de l'enseignement catholique, juste sous le logo « Éduquer tout un sport ». Et l'éternelle et fastidieuse litanie des valeurs présumées se retrouve à l'identique dans la préface, même du nouveau projet éducatif de la fédération. Je cite « Le sport reste ce lieu privilégié de la formation en équipe, de l'apprentissage des règles communes, du respect de l'adversaire. Dans un environnement trop souvent marqué par un fort individualisme, une compétition sauvage, le sport donne l'occasion d'expérimenter le vivre ensemble et le faire ensemble. Ou plus encore, la pratique ludique et sportive met naturellement les enfants ou les jeunes au cœur d'un vivre ensemble, avec des règles à respecter et des comportements de citoyens à adopter. Mais si l'ambition affichée est peut-être généreuse ou naïve sur le plan axiologique et politique, qu'en est-il tant sur le plan des contenus véhiculés que sur celui des pratiques proposées? Comment donner sens et visibilité à ce sport fédéral catholique si magiquement vertueux? À vrai dire, les fédérations et l'ensemble des acteurs institutionnels ne font guère preuve d'originalité en matière de proposition d'un sport véritablement éducatif et porteur d'une identité spécifique à l'enseignement catholique, au-delà bien sûr des discours théoriques identitaires, car finalement c'est toujours la même chose qui est reprochée au sport. Il se suffit à lui-même. La motivation sportive est intrinsèque. Il s'agit de gagner. Le but immédiat supplante tout but éducatif supérieur. Et la vitrine fédérale reste toujours la même d'année en année, en étroite harmonie bien sûr, avec les fédérations sportives délégataires, les prestations aux différents championnats de France. Je poursuis avec la quatrième phase. Et ce que j'ai appelé le moment des intuitions, même si c'est finalement pas le terme qui me convient, mais j'ai pas encore trouvé un autre mot. Gilles va m'aider, je pense. Une fois cet indispensable effort d'introspection accompli, et j'insiste bien sur cet indispensable effort d'introspection, pour essayer de sortir des ornières d'un sport éducatif largement inféodé aux normes des fédérations délégataires, nous nous permettons quatre intuitions pour susciter le débat, éventuellement ouvrir des voies d'harmonisation et de régulation entre des attentes d'éducation chrétienne, où les jeux du corps appartiennent au patrimoine, et des réalités sportives actuelles nettement moins glorieuses. Alors bien sûr, loin de nous l'idée de vouloir épuiser la question et de prétendre que nous avons trouvé la bonne solution. Juste un simple désir d'éviter l'angélisme qui consiste à fournir sans le moindre débat une mission éducative au sport, qui plus est au service de l'éducation chrétienne. Première intuition, développer l'intériorité et la connaissance de tout soi. Ce titre générique est d'ailleurs en partie formulé dans le nouveau projet éducatif de la Fédération de l'enseignement catholique. Alors nous y retrouvons ensuite un ensemble de formulations relatives à l'importance du retour sur soi, ou de l'éducation à l'écoute du corps, au repos, voire aux merveilles du silence. Terminologie qui semble d'ailleurs prendre appui sur une vague de sympathie actuelle envers les diverses techniques de maîtrise de la personnalité, de la méditation zen et ou de la découverte des chemins de sagesse et de sérénité. Mais ces actes éducatifs essentiels à offrir aux adolescents pour faire croître la dimension spirituelle de chacun et ainsi favoriser l'expérience de la relation à Dieu n'ont d'abord strictement rien de novateur. Il existe en effet dans le christianisme toute une tradition d'introspection et de domination des instincts. Sur le plan des activités sportives stricto sensu, nous retrouvons là aussi cette approche un peu mystique qui les considère comme des moyens d'expérience religieuse pour vérifier la profondeur et la solidité des principes religieux et constater l'éventuelle concordance des exigences évangéliques et des obligations sportives. C'est la quête de la symbiose corps-âme qui s'avère ainsi être le combat permanent et la réelle mission divine de l'éducateur chrétien-entraîneur. L'athlète de Luxelles, pour les pionniers de la fédération, ne devait pas non plus être un athlète comme les autres. C'est un athlète de Dieu. L'expérience sportive pourrait alors aider à la réalisation de l'oubli de soi, au passage du plan physique au plan spirituel. Il s'agit d'ailleurs de faire prendre conscience du contenu spirituel de tout geste humain, et plus particulièrement du geste sportif. Hier comme aujourd'hui, c'est sans doute cette seule et unique approche du sport qui permettrait d'en faire un moyen crédible. En un mot, le christianisme ne doit pas se régler sur le sport, mais il doit l'enrichir et le perfectionner. Tel est donc le but ultime, il est essentiellement éducateur et religieux. Pourquoi Luxelles? Parce qu'elle est peut-être une des voies qui mène à Dieu, affirmait déjà le père Mocor en juillet 48 dans un article de la revue de Luxelles. Deuxième intuition, le sport comme une voie ascétique des vertus humaines et chrétiennes. La dimension ascétique a toujours été reconnue et les pontifes l'ont souvent affirmé de manière variée. Les pratiques corporelles sportives apparaîtraient alors comme un moyen d'expérience religieuse. Il s'agit d'une approche de l'éducation sportive empreinte de mysticisme. Pour ce faire, le sport doit être présenté en mettant surtout en valeur le rapport privilégié à la douleur qu'il offre au-delà de toutes les autres caractéristiques. C'est l'appel de la piste sur laquelle on souffre, d'une souffrance qui porte en elle sa joie, autour de laquelle on s'apaise en priant et où l'on trouve le calme, l'équilibre et la paix. C'est une véritable allégorie en hommage aux souffrances provoquées et recherchées par les pratiques sportives. D'une manière parallèle, c'est aussi voir dans la pratique sportive un cheminement gradué et harmonieux pour tendre vers un objectif clairement identifié. Ce chemin permet de dominer les passions. La discipline du sport devient alors une sorte d'exercice des vertus humaines et chrétiennes. Le sport devient une ascèse quotidienne, un antidote contre la paresse et l'indolence. À une époque et dans une société où, certes, la vigueur des esprits est plus précieuse et plus rare que celle des bras, mais l'indolence pas moins répandue. Troisième intuition, le but du sport est le bien de la personne. En ce qui concerne le sport, un des thèmes constants tout au long de l'enseignement de l'Église est l'impérieuse urgence de sauvegarder l'intégrité de la personne humaine. Il s'agit à propos de cette notion d'une ligne de pensée qui plonge ses racines dans l'anthropologie chrétienne et la doctrine sociale de l'Église. à la lumière de la valeur inaliénable de la dignité et de l'intégrité de la personne comme unité du corps et de l'âme, l'Église demande au sport non seulement d'en respecter l'identité, mais aussi de permettre à l'individu de développer son plein potentiel quant au plan de Dieu pour sa vie. Dans la pratique sportive, le corps humain est l'instrument de l'excellence, mais ce corps n'est pas une fin en soi. Les pratiques corporelles dans leur diversité contribuent à l'éducation, au développement, au renforcement de la constitution et de la puissance du mouvement du corps, mais uniquement pour lui permettre, in fine, ainsi préparé à la disposition de l'âme, seule à même de gouverner la personne. Gouvernance pour contribuer, certes, à sa quête de perfectionnement, mais surtout but ultime, objectif suprême, objectif commun à toutes les formes de l'activité humaine dans l'enseignement de l'Église, à savoir accepter d'arriver perdant face à Dieu à la fin. En ce sens, le projet, par sa limitation dramatique, permettrait de pleinement vivre la faiblesse intrinsèque de l'activité humaine. Quatrième intuition, le sport dans le besoin de rédemption. Comme d'autres activités humaines, le sport peut faire l'objet d'utilisations ambiguës ou négatives, qui compromettent son attachement à la personne humaine. Le péché est présent dans le sport comme un signe de la nature humaine déchue. Dans une société dépourvue de valeurs par les consommateurs et les distorsions nihilistes, l'observation des pratiques sportives révèle d'autant plus l'urgence de placer au cœur de la réflexion la dimension éthique. Elle est à considérer comme la source nécessaire à partir de laquelle nous pouvons à la fois puiser la force vitale de motivation et aussi la force de dissuasion pour constater et vérifier les écarts ruineux qui menacent l'athlète à différents niveaux et qui, par la même occasion, sont destructeurs pour le sport lui-même. Ici, l'initiative pastorale trouve un terrain favorable et propice. Conclusion toute provisoire. Pour conclure, si le sport s'est construit sur la base d'une antinomie entre des valeurs affichées et celles véritablement mises en œuvre, il semble aujourd'hui qu'il ne soit plus permis d'ignorer ces dernières sans mettre en péril l'existence même du sport. Il s'agit de constater la mythification du sport qui était indispensable à sa pérennité. L'éducation par le sport tend à renforcer ce mythe. Au regard des enjeux éducatifs légitimes et réaffirmés, qui osera avec force réinterpeller ce mythe? Faute d'avoir su et ou pu concrétiser un sport catholique original, personne ne pourra prétendre renouveler son projet éducatif et réaffirmer des valeurs sans obligatoirement sortir des ornières d'un sport qui a perdu toute crédibilité éducative. Il aurait sans doute fallu ne pas s'enfermer dans une béatitude servile qui associe des principes certes séduisants, mais décalés, voire en contradiction avec la pratique. Vouloir attacher le sport à des valeurs, les défendre, sans se pencher sur ce qui est vraiment le sport, constitue une légèreté intellectuelle, voire une compromission. Activité polymorphe, au service d'intérêts divers, le sport tel qu'il nous est présenté quotidiennement s'éloigne de plus en plus des idéaux sur lesquels il est censé s'appuyer. Les nouveaux projets des différentes fédérations affinitaires en disent très peu sur ces questions. Et ce ne sont pas les aspects mercantiles qui sous-tendent bien sûr les partenariats contractuels régulièrement signés avec les fédérations sportives qui nous rendent optimistes. Force est de ce fait à parier qu'un discours éducatif généreux saupoudrera encore et toujours des pratiques sportives à l'identique. Le changement, c'est maintenant, mériterait une traduction concrète en matière d'éducation corporelle chrétienne. Merci. Oui.